Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Un journal largement consacré au dernier meeting de la campagne présidentielle. Benoît Hamon rassemble des milliers de personnes place de la République à Paris, pendant qu'Emmanuel Macron défend l'Europe à Nantes. À Marseille, Marine et Marion Maréchal Le Pen mettent l'accent sur l'identité française. Enfin, retour à Paris avec Nicolas Dupont-Aignan qui appelle les Français à bousculer l'ordre établi. Une campagne présidentielle à l'ombre de la menace terroriste après l'arrestation hier de deux djihadistes présumés. Nous en parlerons avec notre invité Pierre Conessa, spécialiste du terrorisme islamiste. Au Venezuela, l'opposition manifeste aujourd'hui contre Nicolas Maduro pour dénoncer la dérive dictatoriale du président chaviste. Les explications d'Isabelle Labéry. À 4 jours maintenant du premier tour, Benoît Hamon va-t-il réussir à inverser cette fâcheuse tendance sondagière qui le relègue en 5e position? À moins de 10%, c'était tout l'enjeu du dernier meeting du candidat socialiste ce soir à Paris. Un rassemblement en plein air, place de la République, sur un lieu emblématique de la gauche militante. Benoît Hamon a réussi à attirer 20 000 personnes. C'est en tout cas le chiffre qu'il a donné lui-même à la foule venue l'écouter. On retrouve Ludovic Piétenu, place de la République.
Sur la place, des milliers de fidèles qui ne veulent pas se laisser dicter leur vote de dimanche par des sondages. Certains d'entre eux appellent même ça un vote de résistance. C'est le cas de cette fonctionnaire Sylvie, bientôt à la retraite. Si ses deux enfants de gauche préfèrent Macron, elle reste convaincue par le candidat socialiste. Comme Denise, retraitée de banlieue parisienne dont le conjoint votera finalement Mélenchon. Benoît Hamon, à elle et aux autres, à ceux certains de leur choix et à ceux qui doutent, ne leur dit pas autre chose. « Je me battrai », leur lance-t-il, avec la rage de ces lions sculpté place de la République. Ne laissez personne vous faire douter de vous-même. Ils ne veulent gagner que vos suffrages. Moi, je veux gagner votre respect. C'est sa démarche à Benoît Hamon. Depuis le début de cette longue campagne entamée l'été dernier, déjà du temps de la primaire, vanter une candidature de vérité, de simplicité. Mon appel ce soir, dit-il encore, n'est ni celui d'un tribun, ni celui d'un César. Allusion à Jean-Luc Mélenchon qui réunissait bien plus de personnes sur cette même place il y a tout juste un mois. Son appel, dit-il enfin, dans une adresse cette fois destiné aux électeurs de Macron, n'est pas non plus pour vous parler comme à des clients, comme à des consommateurs, qu'on séduit avec de la publicité à la télévision, avec cette novlangue, ce marketing creux qui dépolitise tout, pour rendre vintage les vieilles recettes libérales. Hamon, finalement, les invite à faire le choix du cœur et non de la raison. Pour beaucoup des présents sur la place, ce dilemme se poursuivra jusqu'à dimanche dans l'isoloir.
Ludovic Piétenu, merci. Nous partons maintenant à Nantes, où Emmanuel Macron tenait meeting ce soir. Le candidat En Marche reste en tête de la plupart des sondages, aux alentours de 23%, un score qui s'est stabilisé après un net recul la semaine dernière. Face à Marine Le Pen et François Fillon, qui jouent la carte de l'identité française, Emmanuel Macron, lui, préfère brandir un drapeau européen à la tribune. Emmanuel Macron qui en appelle à la mobilisation de ses partisans dans la dernière ligne droite.
Rassembler, ouvrir, transformer. C'est cela ce que la génération des progressistes veut porter. C'est cela notre responsabilité. Parce que nous sommes aujourd'hui menacés, pas seulement par les terroristes, parce que le doute s'est installé dans le pays, parce que ce sont les Lumières, ce qui nous a propulsés, ce qui nous tient ici, qui est aujourd'hui menacé, parce que c'est notre sécurité, nos valeurs, notre Europe qui sont menacées. Alors je vous le dis ce soir, j'ai confiance en vous, j'ai confiance dans la France. Nous n'avons pas peur.
Emmanuel Macron ce soir à Nantes, propos recueillis par Antoine Marette. Direction Marseille à présent, à l'autre bout de la France et de l'échiquier politique avec le dernier meeting de Marine Le Pen devant plusieurs milliers de partisans. Au Front National, l'Europe agit comme un repoussoir, sorte de cheval de Troie du multiculturalisme honni par les lepénistes. On va écouter la nièce de Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, la régionale de l'étape puisqu'elle est à la fois députée du Vaucluse et élue à la région PACA. Et pour elle, aucun doute, la montée de l'islam menace l'identité chrétienne de la France.
Nous sommes chez nous et nous avons un chef qui sera bientôt le rempart de la France et des Français contre tous les acteurs de la destruction de la nation. Marine Le Pen sera le rempart de notre identité à la fois chrétienne, grecque et romaine face aux revendications, aux revendications politico-religieuses des islamistes dans les écoles, dans les entreprises ou dans l'espace public. contre les fondamentalismes partisans d'un islam conquérant et totalitaire. Elle sera le rempart des Français de mérite contre ceux de papier et des Français d'héritage contre la dissolution de leur culture historique et ancestrale dans leur pays à travers le magma multiculturel.
Voilà le discours identitaire de Marion Maréchal Le Pen ce soir à Marseille. Propos recueillis par Christine Moncla et Jean-Marie Porcher. Juste à gauche de Marine Le Pen, il y a Nicolas Dupont-Aignan. Le candidat de Debout la France tenait lui aussi meeting ce soir, mais à Paris, au Cirque d'Hiver. Crédité d'environ 4% d'intention de vote, Nicolas Dupont-Aignan espère bien créer la surprise dimanche prochain. Il en appelle au peuple de France avec une métaphore animale autour de l'âne et du lion.
N'oubliez jamais la fameuse expression utilisée par nos adversaires pendant la Grande Guerre, du moins jusqu'à l'arrivée de Clémenceau, et qui qualifiait notre armée, c'est-à-dire la France, des lions dirigés par des ânes. Rien n'a changé. Le peuple français est composé de lions dirigés par des ânes. Alors oui, Français, relevez-vous, réveillez-vous, rugissez comme des lions. Et débarrassez-nous des ânes le plus vite possible. Car la seule force qui peut arrêter cette machine infernale de l'abaissement de la France et de l'appauvrissement des Français, la seule force qui peut vaincre le système, la seule force qui peut remobiliser notre énergie, eh bien, ce n'est pas un homme seul, ce n'est même pas un président de la République, c'est le peuple français ensemble. Et c'est notre objectif. Réveiller le peuple français. Alors oui, la seule force assez puissante, pour sauver notre pays, c'est vous, peuple français, son arme, la seule qui nous reste. Et je vous le dis très clairement, pour peu de temps. Voilà pourquoi 2017 est peut-être la dernière chance pour le peuple français de vivre en démocratie, une démocratie tant abîmée. La seule arme qui nous reste, qui n'ont pas encore pu nous voler, c'est le bulletin de vote.
Nicolas Dupont-Aignan, ce soir au Cirque d'Hiver à Paris, devant environ 1500 partisans, propos recueillis par Emilio Mélé. Cette campagne présidentielle a donc été marquée hier par l'irruption de la menace terroriste, avec cet attentat djihadiste déjoué in extremis. Deux islamistes ont été interpellés à Marseille, deux Français fichés S radicalisés en prison. Clément Bord, un converti de 23 ans, et Mayedine Merabé, âgé lui de 29 ans. Selon les enquêteurs, ils avaient vraisemblablement fait allégeance à l'État islamique. Invité de ce journal, Pierre Conessa, ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense, spécialiste du terrorisme djihadiste. Bonsoir.
Bonsoir.
Pierre Conessa, les deux islamistes arrêtés hier, étaient-ils, selon vous, des djihadistes chevronnés ?
Non, on ne peut pas le dire. Enfin, en tout cas, ils avaient acquis une formation qui leur a permis de fabriquer des matériels explosifs, de se procurer des armes, etc. Donc, quand est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est chevronné? S'il ne s'est pas simplement emparé d'un couteau de cuisine pour tuer quelqu'un dans la rue, on peut considérer qu'il est en tout cas, non seulement chevronné, mais en tout cas soutenu, quoi, encadré. L'individu qui va se convaincre de passer à l'acte n'est important que parce que derrière, il y a quelqu'un qui lui a fourni les moyens d'en faire un acte aussi violent que possible, aussi médiatique que possible, etc. Et encore une fois, le véritable problème, c'est comment ce réseau souterrain qu'on retrouve à propos de tous les attentats qui se sont passés sur le territoire français, comment ce réseau continue-t-il à vivre, à fonctionner en France?
Quel est ce réseau, justement?
L'étude qu'on a faite, nous, sur la communication francophone de Daesh, c'est-à-dire pour savoir quel était l'argumentaire francisé, si vous voulez, de Daesh, pour convaincre des jeunes de passer à l'acte, nous a permis de démonter toute cette propagande. Mais au bout du compte, il s'avérait que quand on rapprochait cette propagande des passages à l'acte, en fait, on n'a jamais trouvé de cas de loup solitaire. Pourquoi? Parce que quand on faisait l'organigramme des attentats qui s'étaient passés sur notre territoire depuis 20 ans, et même dans l'espace francophone d'ailleurs, y compris Belgique et Canada, on s'apercevait qu'il y avait toujours eu un soutien logistique venant de cellules qui se sont installées en France il y a une vingtaine d'années, que tout le monde connaît, c'est-à-dire Cantorcy, La Méno Strasbourg, Artigat, etc. Parce que ces gens qui continuent à vivre sur le territoire français sont des gens qui font très attention à rester dans la légalité, mais qui n'hésitent pas à un moment ou à un autre de fournir une planque, de fournir une voiture, de fournir un mariage pour une carte de séjour et des choses comme ça.
Pierre Conessa, aucune cible précise n'a été identifiée dans cet attentat déjoué, mais il y a cette image de François Fillon en une du journal Le Monde, retrouvée dans une vidéo d'allégeance. Ça veut dire que Fillon était peut-être effectivement une cible pour l'État islamique ?
Oui, je pense qu'effectivement, de toute façon, la réalisation de l'attentat terroriste supposait un arbitrage entre la cible, la facilité d'accès, etc. Je ne connais pas le processus d'arrivée de Mme Le Pen, par exemple, dans un meeting, mais il est probable qu'elle n'arrive pas à travers un bain de foule extérieur, elle arrive à travers le bain de foule intérieur, par exemple. Tandis que Fillon a tendance à débarquer de sa voiture, à arriver jusqu'à la salle de réunion, et donc, si vous voulez, cet accès-là est beaucoup plus difficile à surveiller, puisque autant la salle est fermée, on peut faire des contrôles d'accès, autant quand on est en espace ouvert, l'accès est facile. Donc il est possible que ce soit Fillon, il est possible que ce soit un autre. Ce qui m'a frappé encore une fois dans cette étude sur la communication francophone de Daesh, c'est que la représentation des hommes politiques français est très limitée. On ne citait Dar El Islam, la revue francophone, que de François Hollande et Manuel Valls, c'est tout. Et puis il y avait une seule photo de Madame Le Pen, par exemple. Donc en fait, vous voyez, c'est pas une analyse politique qui va dire le principal ennemi de Daesh, c'est Madame Le Pen. C'est toute cette classe politique, c'est tous pareil, vous voyez.
C'est-à-dire que la cible, c'est la France et ses valeurs démocratiques ou bien la France et sa politique étrangère?
C'est les deux. C'est-à-dire que dans l'image de la France donnée dans la propagande de Daesh, si vous voulez, ça va remonter aux croisades, ça va remonter à la colonisation, ça va remonter à des guerres comme la guerre d'Algérie, etc. Mais en même temps, la dénonciation de la France, c'est aussi l'école publique, l'école laïque, la scolarité obligatoire, etc. Vous voyez, donc il y a tout à la fois la dénonciation d'un système de valeurs et de fonctionnement, mais il y a bien évidemment aussi ce que nous faisons, c'est-à-dire le bombardement, la mort de civils là-bas en Syrie, etc. C'est-à-dire, le débat en France est un peu pipé parce qu'on dit on nous attaque pour ce que nous sommes. Moi je dis on nous attaque pour ce que nous sommes et aussi pour ce que nous faisons. Mais comme on veut pas changer ce que nous sommes, il vaudrait mieux qu'on change ce que nous faisons.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'en particulier, arrêter, si vous voulez, cette fonction de gendarme de la planète qu'on croit s'être attribuée après 91, quand a disparu du RSS, et qui est aujourd'hui d'ailleurs l'objet du débat de la campagne présidentielle. Beaucoup des candidats disent « ça suffit, on n'a pas à rétablir l'ordre partout sur la planète ». D'autant plus qu'un des principales critiques dressées par Daesh contre la diplomatie occidentale, c'est le double standard. C'est-à-dire quand vous voyez sur un site salafiste « 1000 morts à Gaza, on ne fait rien, 3 occidentaux égorgés, on envoie l'armée », vous avez en résumé, si vous voulez, ce qui apparaît comme la diplomatie particulièrement injuste que les Occidentaux prônent sous prétexte de défendre les droits de l'homme. Jamais appliqué le devoir de protéger, par exemple, aux Palestiniens.
En même temps, on ne peut pas reculer devant les arguments de l'État islamique.
Mais est-ce que c'est devant les arguments de l'État islamique qu'on recule? Pourquoi se bat-on contre l'État islamique? Parce qu'il décapite, il coupe les mains des voleurs, il opprime les femmes, il interdit d'autres religions, pour défendre l'Arabie Saoudite, qui décapite, qui coupe les mains des voleurs, qui opprime les femmes, il interdit d'autres religions. Il y a une espèce de schizophrénie diplomatique qui est assez ridicule. Et moi, je pense que, si vous voulez, on peut très bien dire aujourd'hui aux États du Golfe, et en particulier à l'Arabie Saoudite et aux États de la région, vous êtes engagés dans une guerre de religion, parce qu'aujourd'hui, c'est une guerre de religion qui déchire cette région, qui sont les sunnites contre les chiites, Al-Qaïda contre Al-Nusra, Al-Nusra contre l'État islamique, etc., etc. Est-ce que vous pensez qu'on a une légitimité militaire à intervenir dans une guerre de religion? Si on dit aux États de la région, écoutez, c'est votre problème, nous, on veut essayer de cautériser, de limiter les effets de la crise, mais on ne peut pas participer à cette guerre, ben, vous savez, l'Arabie Saoudite et l'Iran vont être obligés de s'entendre. Tandis que là, aujourd'hui, on fait la guerre à leur place, ce qui est quand même étonnant.
Pierre Conessa, merci. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage consacré justement à la question saoudienne, Docteur Saoud et Mister Jihad, la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite, publié chez Robert Laffont. Au Venezuela, l'opposition manifeste en ce moment contre le président Maduro, accusé de vouloir confisquer tous les pouvoirs. D'énormes défilés sont prévus dans la capitale Caracas contre l'héritier d'Hugo Chavez, accusé d'avoir plongé son pays dans la crise et les pénuries. Pour l'opposition vénézuélienne, le régime Maduro prend le chemin de la dictature. Isabelle Labéry.
Ils marchent pour protester contre la répression. Déjà 5 morts et plus de 200 arrestations lors des précédents rassemblements. Ils marchent contre la mauvaise gestion des fonds publics, le délabrement de leur économie. Ils marchent aussi pour défendre leur parlement, seule institution du Venezuela où l'opposition est aujourd'hui majoritaire, mais dont les pouvoirs sont menacés. Ils marchent enfin pour obtenir des élections anticipées et sortir de la crise. Mais le président Maduro, lui, ne voit dans ce mouvement qu'une tentative de déstabilisation. Alors le successeur d'Hugo Chavez ressort le grand jeu, menaces et diatribes anti-américaines.
Les États-Unis d'Amérique ont donné leur feu vert à un processus putschiste, mais je le combattrai. C'est votre commandant en chef qui vous parle. Je vais signer la mise en œuvre du plan Zamora pour défendre l'ordre et la paix et pour mettre en échec ce coup d'État. Je signe ce document tout de suite, avec plaisir.
Le plan Zamora prévoit de mobiliser tout ce que le chavisme compte comme partisans, civils ou militaires. Le chef de l'État a d'ailleurs promis un fusil à chacun des 500 000 miliciens du pays, de quoi nourrir l'affrontement plutôt que l'apaisement.
Isabelle Labéry, merci. Et ce soir, un nouveau manifestant, le sixième, est mort à Caracas. Un jeune homme de 17 ans, tué par balle après avoir été visé par des inconnus à moto. On termine ce journal avec le temps demain. Du soleil partout, selon Météo France. Partout, sauf en Corse, où quelques orages sont encore possibles. Température maximale fraîche pour la saison, 10 à 17 degrés au nord, 16 à 19 au sud. C'est la fin de ce journal préparé avec Jean-François Braun.